Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM www.re2m.org pour le direct et re2m.com pour les podcasts. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour, j'espère que tu vas bien.
Ça va bien et toi?
Bon, ben ma foi oui, tu sais, moi je suis tellement contente de retrouver les auditeurs, ça me fait tellement plaisir à chaque fois, mais toi aussi je le sais, et merci en tout cas chers auditeurs de nous recevoir chez vous, c'est tout à fait toujours très agréable de penser que voilà, que vous êtes là, que vous aimez notre radio, Radio Entre-deux-Mers, et que vous appréciez nos émissions, hein, voilà. Bon, ben j'avais envie de le dire, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, Damien, au fait?
Alors, donc, on vient présenter les films qui sortent cette semaine au cinéma. Et on va débuter avec un de mes réalisateurs préférés du moment, qui tourne énormément ces dernières années, qui sort des films en veux-tu, en voilà. Alors, il n'est pas apprécié par tout le monde, car son univers est très loufoque. C'est Quentin Dupieux. Dupieux qui vient, là, maintenant, présenter Incroyable mais vrai, avec de formidables acteurs. Alors, peux-tu nous présenter ce film?
Il a toujours des castings formidables, tu as raison de le dire, parce que ça, il sait s'entourer, cet homme-là en tout cas. Mais moi aussi, j'aime beaucoup son cinéma. Mais si, je crois qu'il y a... Tu sais, ses films marchent bien, hein. Donc ça veut dire que quand même, il a pas mal de gens qui l'apprécient. Voilà. Alors, en tout cas, oui. Alors là, on est sur Incroyable mais vrai. Alors donc, c'est une comédie. C'est une comédie qui dure 1h14, comédie française. Il y a une nomination à la Berlinale 2022 dans la sélection officielle hors compétition. Quentin Dupieux, tu le dis, bah oui, on répète, un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie. Il est français. Au fait, son pseudo... Tu le connais son pseudo, parce qu'il a un pseudo.
Mister Oiseau, Monsieur Oiseau.
Voilà, Mister Oiseau. Parce Moi, je prononce Oiseau, mais ça s'écrit O-I-Z-O.
C'est Oiseau. Ça, car il est également musicien.
Tout à fait. Donc, tu connais. Ah, mais je savais que tu connaissais, tu vois. Donc, il a 48 ans, il a 20 ans de carrière, 13 tournages à son actif. Il a eu 23 nominations aussi déjà. Et puis, ah ben par exemple, on en avait parlé d'ailleurs, sur Radio Entre-deux-Mers en 2018. Il a réalisé un film qui a très bien marché, qui s'appelait Au Poste. C'était une histoire de garde à vue. Il y avait un commissaire et un suspect. Alors extrêmement, tu l'as dit tout à l'heure, un cinéma extrêmement original, hein. Alors c'était Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig. Ludig.
Ouais. Il y avait aussi Anaïs de Moustier déjà.
Tout à fait, déjà, absolument. Il l'aime beaucoup parce qu'il apprend souvent dans ses films. Alors, en 2020, on a parlé aussi à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers de Mandibule. Tu t'en souviens, avec David Marseille, Grégoire Ludig, encore.
Oui, Adèle Exarchopoulos aussi.
Oui, tout à fait. Mandibule, c'était l'histoire de deux simples d'esprit qui décident de dresser une mouche géante qu'ils ont trouvée dans un coffre de voiture, évidemment pour se faire de l'argent. Donc, on en a beaucoup parlé de ce film qui a très bien marché, de toute façon. Et puis là, nous sommes donc à Incroyable mais vrai. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Ah, Alors, on a Alain Chabat, c'est lui Alain. On a Marie, c'est Léa Drucker. On les aime beaucoup, tous ces gens-là. On a Benoît Magimel, on a Anaïs Lemoustier, comme tu disais, elle est toujours là. On a Michael Halimi, on a Roxane Arnal, on a Nagisa Morimoto, on a Léna Laprès dans les rôles principaux. C'est un très, très, très joli casting. Et puis alors, quand on regarde les bandes annonces, j'en ai regardé plusieurs, il y a un gros suspense. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va nous dire ce qui se passe avec cette trappe, la bande annonce s'arrête brusquement. Voilà. Je ne sais pas si tu en as une, toi, d'ailleurs.
J'en ai une bande annonce que l'on va écouter, oui.
Merci.
On y va ?
Ouais.
Allez, c'est parti.
J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est, à mon sens, le clou de la visite.
Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit...
C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner?
Écoute, laisse-le parler, tais-toi.
Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose...
Bah, dites-nous quoi, merde.
Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité.
Non mais c'est juste dingue.
Et alors, c'est pas tout.
Voilà la bande-annonce d'Incroyable mais vrai.
Alors par contre, Léa Drucker et Benoît Magimel, c'est la première fois qu'ils tournent hein, pour Quentin Durieux. Dupieux. Oh là là, pourquoi c'est Quentin? Quentin Durieux. Oui, c'est la première fois. Oui. Alors le Benoît Magimel, il nous dit d'ailleurs, ça aurait pu arriver bien plus tôt. Ah oui, il aurait pu travailler avec lui bien plus tôt parce qu'il m'avait contacté il y a une douzaine d'années après avoir vu La femme coupée en deux de Chabrol. On avait eu une conversation non seulement pour me dire le bien qu'il pensait de ce film, mais aussi que mon personnage et mon jeu lui donnaient le sentiment que j'étais prêt pour tenter des choses un peu hors des clous. Ça m'avait fait très plaisir, même s'il ne m'avait rien proposé à ce moment-là. Voilà, donc déjà, il appréciait beaucoup cet acteur. Bah, 12 ans après, il l'appelle pour remplir ce rôle. Et c'est... Alors, Incroyable mais vrai, ça se déroule, hein, comme tous les films précédents d'ailleurs, de Quentin Dupieux, dans un contexte étrange. Par contre, ce nouveau long-métrage est finalement particulièrement rationnel dans sa vision des deux couples. Alain Chabat développe d'ailleurs à ce sujet, il nous dit... C'est sans conteste son film le plus linéaire, qui ne passe pas par des entorses narratives, du genre briser le quatrième mur. J'aime énormément que, justement, il s'accroche à son histoire et ne feinte jamais. Et ça, c'est sans renoncer à son plaisir, ou plutôt qu'il aille vers d'autres. Voilà ce que nous dit Alain Chabat sur ce film. Moi, mes chéris, franchement, si vous voulez vous amuser en même temps, voir des grands acteurs quand même, hein, faire un sacré bon numéro, bah, Incroyable mais vrai, et pour vous, oh oui, comédie, eh ben oui.
De Quentin Dupieux, et c'est un film à voir en attendant le prochain.
Oui.
Et maintenant, on va continuer avec Sépidé Farcy, réalisateur de Son état, qui nous propose le film « Demain, virgule, je traverse ».
Oui, « Demain, je traverse », c'est un drame. Alors, c'est français, c'est grec, c'est luxembourgeois, c'est hollandais. Ça dure 1h21. Alors, Sépidé Farcy, moi je dis Farcy. Farzi, parce que il y a qu'un seul S, alors il me semble que c'est Farzi, en fait. C'est une réalisatrice, scénariste, monteuse de films. Elle est franco-iranienne. Elle a 57 ans, 23 ans de carrière et 11 tournages à son actif. Alors, elle avait eu en 2015 3 nominations pour une histoire d'amour, ça s'appelait Red Rose. Ça se passait à Téhéran en juin 2009. Au moment, alors il y a une histoire de contestation, une histoire d'amour. En fait, c'était au moment où il y avait un renversement, disons une élection présidentielle extrêmement faussée. Donc, voilà. Alors il y avait tout ça dans ce film qui a très très bien marché et qui a eu donc ces 3 nominations. Il y avait Mina Cavani et Vassilis Koukali dans les rôles principaux. C'était très chouette ça. Alors Maria est policière, c'est une policière grecque. Elle est mère célibataire et elle est fille unique. Elle jongle avec ses problèmes d'argent. Sa fille, adolescente, sa vieille mère et la crise grecque, eh bien, son commissariat ferme à Athènes et elle doit accepter un poste sur l'île de Lesbos, aux confins de la mer Égée. Youssef, un jeune Syrien qui fuit la guerre pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos, dans un camp de réfugiés, et veut aller de l'avant en Europe. Il passe par Athènes, où Maria vient pour rechercher sa fille qui a disparu. Attention, c'est un petit peu compliqué, hein, alors j'essaie d'expliquer pas trop rapidement là, parce que c'est pas évident. Alors, leur destin se croise à Maria et Youssef, eh bien oui, et un bref moment en fait, dans une Grèce qui semble être une zone de paix, mais qui en réalité ne l'est plus. Celui qui semble être le plus libre des deux l'est peut-être le moins. Alors, on a dans les rôles, on a des acteurs grecs qui sont très connus chez eux. On a un acteur syrien aussi qui est connu. On a donc Maria, c'est Marisha Triantafylidou. Elle est très connue là-bas chez elle, grande actrice. On a alors le Youssef est joué par un Syrien, un acteur syrien, Anara Issa. On a Lydia Fotopoulou. On a Shirin Youssefian aussi dans les rôles principaux. Donc, que des acteurs grecs plus l'acteur syrien. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un joli casting, à mon avis. Hein. Alors, en fait, Sepide Farzi, elle portait depuis une dizaine d'années l'idée d'une histoire d'altérité sur la rencontre improbable entre deux personnages venant de deux mondes différents. Alors, elle voulait d'abord tourner à Rome. Bon, et puis finalement, elle l'a déplacé dans le pourtour méditerranéen, dans des vieilles cités comme Marseille, avant de finalement filmer « Demain, je traverse » entre Athènes et Mytilène. Mytilène, c'est la principale ville de Lesbos, hein, de l'île de Lesbos. Changement de décor, du coup. Eh bien oui. Alors, au départ, elle voulait se concentrer sur le contexte migratoire en Europe centrale, voilà, alors que son histoire devait se dérouler à Marseille. Bon, entre-temps, elle a tourné deux films en Grèce et elle a été sensibilisée au contexte de la crise économique grecque alors que la situation migratoire s'aggravait. Elle nous dit qu'elle était plus impliquée dans ces deux contextes parallèles et Marseille avait depuis beaucoup changé finalement, quoi. Du coup, j'ai placé mon histoire en Grèce. Allez, c'était plus simple pour elle et elle pensait que c'était meilleur aussi, que c'était mieux finalement, ce tournage en Grèce avec la crise économique. Alors, elle a effectué plusieurs voyages hein, pendant qu'elle écrivait le scénario, notamment sur l'île de Lesbos justement, dans le camp de Moria où elle aurait voulu tourner. Mais bon, pour des raisons de sécurité, ça n'a pas été possible. Voilà, donc elle a fait d'autres voyages aussi en Turquie, en Grèce, pendant cette écriture de scénario. Alors, dans le camp de réfugiés Skamarangas, l'équipe a dû tourner plus ou moins en cachette, car il était impossible de le reconstituer avec des décors et des figurants. Voilà, il y a eu des plans volés comme ça, qui ont été faits d'ailleurs pendant les trajets en voiture. Eh oui, c'était courageux quand même finalement. Eh oui, alors elle fait pas vraiment de casting, Sepide Farzi, j'ai du mal, hein, à chaque fois je mets deux S. Elle fait pas vraiment de casting, elle va à la rencontre des acteurs, elle. Elle les repère et elle va à leur rencontre, voilà. Et par contre, l'interprète de Youssef, là, en fait, elle l'a trouvé par le biais d'un réalisateur syrien. Elle a contacté donc un groupe de jeunes acteurs issus de l'école d'art dramatique de Damas, mais pour la plupart, ils étaient réfugiés en Europe. Et puis finalement, c'est lui qui est venu vers elle, Anna Issa. Il est venu et puis voilà, et il a pris le rôle de Youssef. Voilà comment ça s'est passé. C'est un peu sportif tout ça. Hein demain, je traverse ce drame, voilà, de Sepide Farzi. Voilà.
Donc voilà pour ce film. Et maintenant, c'est avec une comédie française que nous allons continuer. Comédie de Carole Rocher et Barbara Biancardini. Ça s'appelle Fraté.
Fraté, ça veut dire frère, hein, Fraté. Ah, ben oui.
Ça veut dire frère en Corse, non?
Ben oui, Fraté. C'est ça, c'est le mot corse pour dire frère. Ça dure 1h25, c'est une comédie donc française. Alors c'est Carole Rocher, tu l'as dit, oui. Alors c'est une réalisatrice, scénariste, actrice française, on la connaît absolument. Alors là, dès que tu la vois, tu sais que c'est elle. On la connaît beaucoup comme actrice, surtout d'ailleurs. Elle a 47 ans, elle a 24 ans de carrière, 36 tournages. En fait, il y en a 33. Il y a 33 tournages comme actrice hein, dans sa carrière. Elle a, parce que Fraté est son deuxième long métrage en co-réalisation avec Barbara Biancardini, réalisatrice française de 25 ans, qui est dans la vraie vie la fille de Carole Rocher. Et pour elle, pour Barbara Biancardini, c'est son premier long métrage en co-réalisation avec sa maman, Carole Rocher. Voilà. Son premier long métrage, en fait, qu'elle avait co-réalisé aussi avec Thomas N. Gijol. Je préfère dire N. Gijol, hein, je crois.
N. Gijol, on dit même.
Ouais, N. Gijol, qui est son compagnon d'ailleurs. Hein,
oui, à Carole Rocher.
Qui est le compagnon de Carole Rocher, oui. C'était son premier long métrage, voilà. C'était en 2019. Le documentaire premier long métrage en co-réalisation, c'était en 2003. Et en 2019, elle a réalisé toujours en co-réalisation Black Snake, la légende du serpent noir. Et il y avait N. Gijol justement qui l'aidait à la réalisation et qui était comme acteur aussi, qui jouait comme acteur dans ce film, qui a très très bien marché. Et il y a eu, alors là, elle a également un scénariste qui travaille avec elle, qui s'appelle Patrick Rocher, et qui est son fraté, son frère.
Directement, voilà.
Oui, Patrick Rocher 2, directement, voilà. C'est une famille d'artistes, hein, de grands artistes finalement, quoi. C'est ça, ils travaillent ensemble, ils ont tout à fait raison, je trouve. Alors, c'est quoi Fraté ? À la suite de l'enterrement de son père, dans son village, en plein milieu du maquis corse, Doumé découvre l'existence d'un frère, Lucien, avec qui il devra partager l'héritage laissé par le patriarche, à condition d'arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale. Sous fond de légitimité culturelle et d'héritage immobilier, on a ici quoi ? Ben, un rapport de force qui va s'installer entre Lucien, le fils de sang, et Doumé, le fils adoptif. Ah, sacrée histoire, belle histoire. Alors Thomas N. Gijol joue le rôle de Doumé. Et puis le rôle de Lucien est tenu par Samir Ghesmi. On les connaît absolument. On a également on a Marie-Ange Géromini dans les rôles. On a Jean-Pierre Lanfranchi. On a Aurélien Gabrielli. Il y a Carole Rocher aussi qui a un rôle. On a Cédric Appieto, on a Gina Jiménez, voilà, dans les rôles principaux. C'est donc, c'est un joli film, hein. Puis alors, en plus, on est en Corse, on visite la Corse en même temps avec Fraté. Donc, Carole Rocher, elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est adresser une lettre d'amour à la Corse, en fait. Alors, Vezzani, c'est le lieu de l'intrigue du film, se situe en Haute-Corse, c'est le village de ses grands-parents. Elle y a passé tous ses étés depuis qu'elle est née, tout comme ses filles d'ailleurs, son frère également, Patrick Rocher, et depuis leur rencontre, son compagnon Thomas N. Gijol. Donc, ils y passent tous leurs étés dans ce petit village de Vezzani. Elle nous dit que c'est l'endroit que nous aimons le plus au monde. Nous y retrouvons nos origines, des valeurs et des principes forts auxquels nous sommes profondément attachés et que très naturellement, Thomas a aussitôt partagé. Voilà. Alors son lien avec l'identité corse et son amour pour Vezzani sont tels qu'il a éprouvé, lui, elle parle de Thomas Gijol, hein, il a éprouvé l'envie d'en faire un scénario, parce qu'il a participé au scénario Thomas Gijol, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Et sa fille, elle, on sait que au départ, elle n'était pas prévue pour co-réaliser. Et puis finalement, à cause aussi du virus aussi, à cause de tout ça, finalement, le tournage a été retardé et du coup, Carole Rocher a pris sa fille. Pour l'aider à réaliser, voilà, Barbara Biancardini, très contente justement pour son premier long métrage. Et début 2020, donc c'est là qu'il y a eu le confinement et tout, hein, où vraiment il y a eu une fermeture là. Voilà. Cette crise sanitaire a reporté un tas de tournages, d'ailleurs, hein, pas que celui-ci, beaucoup d'autres tournages. Ouais. Eh oui. Alors bon, elle ne voulait pas laisser le film dans les tiroirs, donc elle a travaillé avec sa fille, avec Barbara. Voilà. De toute façon, elle dit en parlant de sa fille, je connaissais son talent, sa proximité avec les comédiens, son rapport à la réalisation et son attachement à Vezzani. Donc, elle ne craignait rien avec cette aide de réalisation. Alors, en fait, Carole Rocher et Thomas Ngijol collaborent pour la 4e fois au cinéma. Eh oui, tous les deux. Bon, ben, en fait, Thomas Ngijol interprète Doumé parce que Samir Ghesmi a été choisi, lui, pour incarner Lucien. Parce qu'il s'agissait vraiment de nous prouver qu'il était possible de faire ce métier par amour et de le faire de tout notre cœur avec des gens que nous aimions, qu'il s'agisse des acteurs ou des techniciens. Voilà comment elle explique ce choix des rôles. Alors, les acteurs secondaires, donc, ce sont des comédiens corses que nous connaissons. Et tous les autres figurants sont des gens du village. Elle nous dit qu'ils se sont prêtés gracieusement à toutes les scènes de figuration. Ils nous ont ouvert les portes de leur bar, de leur maison. Ils nous ont fait confiance. Le village entier est devenu un studio de cinéma. Ça donne encore plus envie de voir ce film, je trouve, justement. Toute cette connivence-là, toutes ces amitiés, ces gens qui ont travaillé gracieusement. Moi, je trouve ça, c'est très rare, hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas, pour ce chouette film. Ah oui, moi, je ne pouvais pas passer à côté, quand même. Hein. Ce n'était pas possible. Mais chérie, je voulais vous en parler, fraté. Oh, ben, dans nos auditeurs, on a peut-être des Corses, d'ailleurs. Des gens qui partent en été en vacances en Corse. Des fratés. Sœurs, je ne sais pas comment on dit. Dommage, j'aurais dû chercher. Tu sais, toi, Damien, comment on dit sœur?
Je ne sais pas.
Il n'y a que fraté, donc. Et voilà. Fraté, très chouette. Eh ouais. Bon. Allez voir, donc, vous détendre un peu.
Fraté de Carole Rocher et Barbara Biancardini.
Oui.
Et maintenant, on va retrouver Le Chemin du Bonheur. Et c'est un bon Oula. Projet avec Nicolas Steil.
Eh oui. Oula, le chemin du... Tu dis, on va retrouver le chemin du bonheur. Ben voilà qui est très optimiste.
Ah oui, c'est ça,
c'est bien. C'est bien, ouais, ouais. Il a 4 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2021. Ça dure 1h55. C'est une comédie dramatique française, luxembourgeoise et belge. Ils s'y sont mis tous les trois. Nicolas Steil, oui, tu l'as dit, réalisateur, scénariste, producteur. Surtout producteur. Il a produit d'ailleurs, je crois que c'est une trentaine ou 31 films entre 2000, non, 32 même, 32 films, ouais, je m'étais mis ça dans un coin de la tête entre 2003 et 2019. C'est donc un grand producteur. Il est luxembourgeois, il a 61 ans, il a donc 15 ans de carrière et 34 tournages parce que ça, entre les films qu'il a produits et ses deux longs métrages. Celui-ci est le deuxième long métrage. Le premier est sorti en 2010 et c'était Réfractaire, le titre du premier. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 21 ans, son père est nazi. Il a deux choix possibles devant lui. Le premier, il devient soit un enrôlé de force et il tire sur les alliés, sur le front russe, soit il se transforme en réfractaire et il attend la fin de la guerre, terré au fond d'une mine pendant de longs mois, dans le froid, l'humidité, sans lumière et sans soleil. Il avait deux choix dans ce film Réfractaire qui est très très beau. Donc il est, si vous le voulez, en DVD, mes chéris, il est sorti en 2010, de Nicolas Steil. Il y avait Grégoire Le Prince Ringuet dans les rôles principaux, il y avait Arthur Dupont. Des acteurs qu'on connaît, qui ont beaucoup de talent. Il y avait Roxane Duran aussi, Tania, ouais, voilà. Il y avait un tas de gens très très talentueux. Alors là, on repart sur le chemin du bonheur. Enfant, Saul échappe à la Shoah grâce au Kindertransport qui lui permet de passer de Vienne à Bruxelles. Les Kindertransport, c'était les transports d'enfants qui, à ce moment-là, permettait aux gens de passer de Vienne à Bruxelles. Voilà, donc il a fait partie des enfants qui ont pu échapper grâce à ces transports. 40 ans plus tard, il y est propriétaire d'un restaurant délicatessen dédié au 7e art, où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses. Alors qu'il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre d'Anna et il s'implique dans le projet cinématographique de l'un de ses amis. Deux événements qui le replongent dans son passé d'enfant caché et qui le confrontent à des souvenirs profondément enfouis. Malheureusement, pas enfouis. Alors, on a dans les rôles principaux, on a Simon Abkarian. Mais oui, on l'aime beaucoup, Simon Abkarian. C'est un acteur franco-arménien, Simon Abkarian. On a Pascal Arbillot qui joue le rôle d'Anna. La charmante et talentueuse Pascal Arbillot, on la connaît bien aussi. On a André Jung qui est un acteur luxembourgeois. On a Hélène Noguera, qui est une actrice belge dans ce film. On a Django Schrevens, qui est un acteur belge. On a Raoul Schlichter, qui est un acteur belge également. On a Michel Villermoz, qu'on connaît. Mathilde Amet, on la connaît également. Eric Caravaca, Brigitte Fosset. Oh, quel beau casting, décidément, le chemin du bonheur. Eh bien oui, c'est quand même, hein, c'est chouette des castings comme ça. Alors en fait, l'histoire du film se trouve, enfin, trouve sa source, surtout d'ailleurs, au début des années 90, lorsqu'un certain Henri Roanne a proposé à Nicolas Stel de prendre les commandes d'une partie du programme média de la Commission européenne, une fonction qui consiste à trouver et à mettre en place des mesures d'accompagnement pour aider les producteurs à mieux financer et vendre leurs films. Alors, ben oui, Henri Roanne, c'est Henri Roanne Rosenblatt, son nom complet d'ailleurs, c'est un expert audiovisuel, je mange les mots, européen de grand renom, c'est un ancien journaliste, il est producteur à la RTBF. RTBF, c'est la radio-télévision belge de la communauté française. Il est actuellement membre du conseil d'administration de la Cinémathèque royale de Belgique. Et son roman, le roman sur lequel qui est adapté sur ce film, Le chemin du bonheur, s'appelle Le cinéma de Saul. Ah. Saul, d'ailleurs, son nom de famille, c'est Birnbaum. Saul Birnbaum. Voilà, ça c'est le roman de Henri Roanne. Alors voilà, ce que nous dit le réalisateur, c'est que dans le métier, cet homme-là, Henri Roanne, tout le monde l'appelle Papa Média, parce que dans les années 90, après avoir quitté le métier de critique de cinéma, il avait été à l'origine d'un programme ambitieux de soutien européen. Et c'est grâce à lui que le réalisateur s'est retrouvé à Bruxelles à la tête d'un bureau d'une trentaine de personnes. Ouais. On a des antennes dans 18 pays, c'est ce qu'il nous dit. Hein. C'est quand même c'est quand même très très important. Et c'était grâce à Henri Roanne précisément. Et sinon, concernant Simon Abkarian, c'est un grand habitué des rôles de gangsters. Eh bien oui, moi qui me fiche les chocottes dans certains de ses films. Je l'ai déjà dit ça, Damien, je crois, hein, qui me fichait les chocottes.
Oui, tu nous l'as déjà dit.
Ah oui, parce que c'est un gangster extrêmement doué. En fait, il fait tellement authentique que ça file un peu les chocottes. Eh bien là, c'est pas du tout ça. Là, il incarne Saul adulte et ça n'est pas un gangster, évidemment. C'est même quelqu'un de très, très bien, de très doux, de très tout à fait respectable. C'est voilà. Et alors, c'est son parcours théâtral, d'ailleurs, qui a donné l'envie à Nicolas Stel de le choisir. Il nous dit que Simon est non seulement un artiste complet, parce qu'il écrit, il joue, il met en scène, bon, avec un talent qui lui a fait remporter d'ailleurs trois Molières en 2020 pour Electre des Bas-Fonds. C'est un phénomène qui est jamais arrivé, ça, trois Molières pour le même spectacle. Voilà. Et du coup, ben voilà, ça l'a décidé à le choisir. C'est son talent, en fait. Il est choisi pour son talent. En résumé, c'est à peu près ça. Eh bien oui, quand on a du talent, les grands réalisateurs nous choisissent forcément, à un moment ou à un autre. Voilà, très très beau film, très très belle comédie dramatique. Le chemin
ça s'appelle Le chemin du bonheur. Et maintenant, avec Magnus von Horn, nous retrouvons le film qui s'appelle Sweat.
Sweat. Bah, Sweat, en traduit, c'est sueur. Quand on traduit Sweat, sueur. C'est une comédie dramatique d'une heure 46. Alors, c'est suédois et c'est polonais. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2020, label Les Nouveaux Venus. Magnus von Horn, réalisateur, scénariste suédois, il a 38 ans. Il a 13 ans de carrière et 4 tournages, dont 2 courts-métrages d'ailleurs. Il a eu quand même 6 nominations dans sa carrière. Bah, à 38 ans, c'est pas mal du tout. Donc 5 d'ailleurs pour un film qu'il a réalisé en 2016, un drame qui s'appelle Le Lendemain. Et qui a eu donc 5 nominations au Festival de Cannes 2015, puisqu'il est sorti en 2015, et à la quinzaine des réalisateurs également. Il a eu ses nominations, c'est des belles nominations ça quand même. Bon, voilà, bah c'est l'histoire d'un adolescent qui, après une peine de prison, est rejeté par ses anciens amis et abandonné de ses proches. Il ne peut effacer le passé, il décide d'y faire face. Il y avait Erik Munther, qui est un acteur suédois, et Mats Blomgren aussi, qui est un acteur suédois dans ce film très très beau, Le Lendemain. Mes chéris, si vous ne l'avez pas, sorti en 2016, de Magnus von Horn. Et là, on a l'histoire de Sylvia. Sylvia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et elle est courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude bien réelle ne se partage avec personne. Alors, on a dans les rôles, pour Sylvia, c'est une actrice polonaise, Magdalena Kolesnik. Ouais, Magdalena Kolesnik. Donc, elle est connue en Pologne. Nous, on la connaît beaucoup moins. C'est justement le moment de la découvrir. Et puis, on a un autre acteur polonais, Julian Zwieszewski. On a Aleksandra Konieczna aussi, qui est une Polonaise. Et on avait Zbigniew Zamachowski, qui est aussi un acteur polonais. Pour la prononciation, j'ai fait un effort, j'espère que ça va. Alors, on nous dit, en tout cas, j'ai regardé la bande-annonce en version originale, et on nous dit que tout le monde l'adore et personne ne l'aime. Aïe, 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 l'influenceuse. Alors, en fait, ce que nous dit le cinéaste, là, c'est que les exhibitionnistes émotionnels me fascine, sans doute parce que je suis à l'opposé d'eux. Je garde mes émotions pour moi, je ne les partage que rarement de peur d'être jugée. Sur les réseaux sociaux, dit-il, je suis un observateur passif de ceux qui racontent leur quotidien et leurs sentiments. Et je me demande toujours, est-ce vraiment leur vie? Quand leur téléphone est éteint, sont-ils différents? Voilà deux questions que se pose Magnus von Horn. Quand il va sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, il a suivi le compte d'une femme qui est coach sportive et influenceuse, et il a rapidement été fasciné par la quantité de photos et de vidéos qu'elle postait chaque jour. Il nous dit d'ailleurs, cela allait de ses trajets en voiture à ses états d'âme. Elle prenait des photos de son corps, elle ouvrait en direct les paquets envoyés par ses sponsors. Elle avait 600 000 followers, ça on l'a déjà dit, hein, sur Instagram. Elle posait en couverture de magazines consacrés au bodybuilding et ses séances de fitness étaient disponibles en DVD. Poster des photos, des vidéos et partager sa vie privée, eh ben, c'était devenu sa profession. Voilà. Voilà ce que nous dit Magnus von Horn sur ce qu'il pense, eh oui, des réseaux sociaux et des influenceurs et influenceuses. Ma foi, voilà. Je crois que c'est un film à voir quand même. Moi, je trouvais que ça valait le coup d'en parler, cette comédie dramatique. Sweat.
Sweat de Magnus von Horn. Et maintenant, oui, avec Lisa Birwis. Nous retrouvons le film qui s'appelle Le Prince.
Le Prince, mais oui, Le Prince, oh, c'est un joli titre, aïe, 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 ça dure 2h05. Il y a du drame, il y a de la romance, c'est un film allemand, voilà, de Lisa Birwis, qui est une réalisatrice, tu l'as dit, elle est scénariste, elle est allemande, elle a 39 ans, c'est son premier long métrage. Il a été présenté d'ailleurs à la première mondiale en compétition au festival de Karlovy Vary. Karlovy Vary, c'est en République tchèque. Hein. Il a été présenté en 2021, ce film. Alors, c'est l'histoire d'une galériste allemande de Francfort, Monica, qui n'a rien de commun avec Joseph, qui est un diamantaire congolais en attente de régularisation et qui survit de combines plus ou moins légales dans la même ville, Francfort. Tous deux pensent qu'ils sont différents, qu'ils ne sont pas le produit de leur environnement et qu'ils vont pouvoir surmonter les obstacles. Pourtant, la défiance s'immisce dans leur amour. Là, on va mettre des points de suspension. Que va-t-il se passer? Alors, on a dans le rôle de Monica une actrice autrichienne, Ursula Strauss. Joseph, c'est Passy. Bon, tu dois connaître, toi, Damien Passy, c'est un rappeur.
Passy, oui, il faisait partie de Mystère Amère.
Voilà, c'est ça, son vrai. Oui, c'est ça, Passy. Son vrai nom, c'est Passy Balinde. Il a 49 ans, il est franco-congolais. C'est un chanteur, compositeur, producteur. Il est considéré comme un des pères fondateurs du rap français, à l'instar de NTM, YAM ou MC Solar. Alors lui, c'est quoi? Ben, son genre musical, c'est hip-hop, c'est le rap français, c'est le rap afro, voilà, Passy. C'est son premier grand rôle au cinéma, à Passy. Alors on a un acteur allemand, Zumbo Tango Samuel. On a également une autre actrice autrichienne, Victoria Trautsandorf. Voilà, qui sont dans les rôles principaux. Le prince, en fait, pour la réalisatrice, elle nous dit d'ailleurs qu'elle s'est nourrie du couple que formaient sa mère et son mari de l'époque, originaire de Kinshasa, au Congo. Alors, malgré toutes leurs difficultés, dit-elle, ils formaient un couple incroyable, un couple lumineux, non seulement par leurs différences, mais aussi par leur résilience, leur humour et par l'énergie qu'il y avait entre eux. Voilà, donc elle s'est nourrie de ses souvenirs de sa mère et de son beau-père pour écrire ce scénario. Elle voulait pas raconter exactement l'histoire de sa mère. Elle s'en est nourrie uniquement. Elle a aussi d'ailleurs effectué des recherches. Elle a interrogé des personnes pour prendre en compte les difficultés qu'un couple mixte peut rencontrer. Voilà. Alors, au-delà des obstacles extérieurs évidents, hein, il y a le racisme, il y a les contrôles de police, il y a la peur de l'expulsion qui pesait sur la relation, la réalisatrice souhaitait se pencher sur la lutte personnelle dans un tel couple. Elle nous dit qu'elle me semblait incroyablement compliquée et difficile. Progressivement, j'ai compris qu'elle n'était pas seulement enracinée dans leurs différentes cultures, leurs environnements sociaux ou leurs origines. Et oui, cette lutte très, très personnelle, très, très difficile, très compliquée, très dure, évidemment, hein. Alors bon, elle a pour écrire le personnage de Joseph, qui est joué donc par Passy, la réalisatrice s'est aventurée en territoire inconnu. Voilà. Alors elle nous dit qu'elle a passé de drôles de nuits blanches à se demander si je pourrais rendre justice à cette perspective. J'ai interrogé de nombreuses personnes de la diaspora africaine, surtout des Congolais et des Angolais, et j'ai lu beaucoup de fictions et je les ai comparées presque tout le temps à la réalité. Voilà. Donc, elle a fait un sacré travail quand même. Hein. Mais enfin, elle a quand même tenu à rendre le personnage indéchiffrable, celui de Joseph, parce qu'il a une forte identité individuelle. Et du coup, tout ça, ça fait partie de la construction d'une défiance qui, je l'espère, interrogera le spectateur autant que Monica. C'est-à-dire, puis-je laisser mon partenaire simplement être et aimer sans tout comprendre? Et en fin de compte, c'est une question d'intuition. Voilà ce que nous dit la réalisatrice en parlant de son film. Elle voulait signer un mélodrame, un film d'amour sur deux mondes qui s'entrechoquent. Ouais. Donc elle reconnaît qu'en fin de compte, le cinéma pour elle est une étude de questions sociales et en soi, elles sont toujours politiques. Sans oublier que Francfort, quand même, dans ce film, je ne sais pas, mes chéris, si certains de vous connaissent, si vous êtes allés déjà là-bas en touriste. Le film se déroule à Francfort, mais qui est considéré par la réalisatrice comme le lieu idéal pour dérouler son histoire. Voilà, c'est le siège de la Banque Centrale Européenne, c'est le siège de l'une des plus grandes bourses du monde et de très nombreuses entreprises internationales y sont implantées. Voilà, donc cette ville allemande, nous dit-elle, symbolise l'argent. Mais c'est aussi un lieu cosmopolite où les contraires se rencontrent. Eh oui, voilà. Alors, elle dit par exemple que le quartier des affaires côtoie le quartier de la gare où se croisent chaque jour les prostituées, les artistes, les touristes, les cadres supérieurs et toute une foule de gens du monde entier. Bon, Francfort, c'est une sorte de New York à toute petite échelle. Voilà comment elle conclut ce qu'elle pense de Francfort, de la ville de Francfort. Intéressante conclusion, je trouve. Le prince, n'est-ce pas Damien ?
Oui, tout à fait. Le prince, donc, de Lisa Bierhuirst. Et maintenant, avec Rodrigo Sepúlveda, nous retrouvons le film « Je tremble au matador ».
Ah oui, sacré titre, hein ?« Je tremble au matador », 1h33.
C'est un taureau qui parle ou comment ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait allusion au fait que un toréador et un taureau, enfin, qui sont face à face, il y a forcément un des deux qui va mourir. Et donc, ça explique le titre « Je tremble au matador ». Mais non, c'est pas du tout une histoire de taureau. Mais c'était juste une allusion, quoi, à cette histoire d'un matador et d'un taureau face à face. Alors, c'est un drame, c'est historique, il y a de la romance aussi. Alors, c'est argentin, c'est chilien et c'est mexicain. Mais parce que Rodrigo Sepúlveda, tu l'as dit, c'est un réalisateur, scénariste, producteur. Il est metteur en scène aussi, il est réalisateur de télévision, c'est un chilien. Il a 62 ans, c'est son deuxième long métrage pour un film qui sort en salle. Alors, en 2014, j'avais mis de côté ça parce que je trouvais que c'était intéressant. Il avait réalisé Aurora, qui était d'après une histoire vraie d'ailleurs. C'est l'histoire d'une enseignante qui n'a pas d'enfant et qui veut adopter un bébé qui a été trouvé mort dans une décharge publique. Il n'a pas d'identité et la justice ne veut pas de précédent. Elle, l'enseignante, veut qu'il ait un nom et une sépulture. Et c'est vraiment arrivé ça, là-bas. Eh oui. Alors là, ça c'était donc Aurora, sorti en 2014 et qu'on peut trouver en DVD, hein, pour ceux que ça intéresse. Là, on est, Je tremble au matador, on est en Chili en 1986, en pleine dictature, c'est Pinochet hein, qui est là à ce moment-là. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu'il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s'engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque. Et on a dans les rôles, alors c'est Alfredo Castro qui est un acteur chilien qui joue La Loca. On a Leonardo Ortiz Gris qui est un acteur mexicain qui joue le rôle de Carlos. On a une actrice argentine qui est connue chez elle, Julieta Silberberg. On a une autre actrice aussi connue, qui est chilienne, Amparo Noguera. Ce sont des acteurs très connus chez eux, hein, je l'avais noté ça. Donc c'est adapté du roman qui a été écrit en 2001 par l'écrivain et artiste chilien LGBT Pedro Lembel. Alors il est décédé lui en 2015 à 62 ans. C'est son unique roman. C'est l'unique roman qu'il a écrit dans sa vie. C'est une histoire d'amour donc entre un vieux travesti et un guérillero, qui prépare un attentat contre la dictature dans le Chili des années 80. Et en fait, cette histoire d'amour là écrite par cet écrivain LGBT a été très populaire dans le pays. C'est ce que nous dit en tout cas le réalisateur. Il s'agit bien d'une histoire d'amour particulière, en raison du contexte politique, évidemment. Les deux personnages principaux, Carlos et La Loca, vivent chacun dans le secret. Carlos pour être un guerriero et La Loca pour être homosexuel, dans un pays où l'homosexualité était illégale dans les années 80. Je tremble au matador. C'était ça, il faisait référence au combat entre un matador et un taureau. Un des deux doit mourir, des fois les deux d'ailleurs. Voilà. Je tremble, t'adore. Très, très beau film. Je voulais en parler quand même. Vraiment.
Voilà pour le dernier film de fiction proposé aujourd'hui par toi, Anne. Et maintenant, tu vas nous proposer des documentaires comme régulièrement dans l'émission Conversation autour du cinéma, dont un premier documentaire d'Alexandre Messina qui s'appelle « Je t'aime, filme-moi ».
Oui, ben, en fait, c'est un documentaire, mais en même temps, c'est une comédie. Hein, alors, ça fait un peu les deux, quoi. Ça fait un peu fiction et documentaire. Ça dure 1h20. Tu l'as dit, Alexandre Messina, c'est un réalisateur, scénariste, auteur. Il est directeur de la photographie, il est français. Il a 15 ans de carrière et il a 5 tournages à son actif. Dont d'ailleurs un documentaire tourné en 2021, Elle danse. C'était l'histoire de danseuses qui dansent au chevet des patients atteints par le cancer. Et oui, on en a parlé de ce documentaire. Moi, j'en ai parlé, hein, je me souviens très bien, Elle danse, dans à Radio Entre deux Mers. Puis son premier long métrage, il l'a réalisé en 2010, c'était Les Marais criminels. C'était la cavale de deux jeunes femmes dans cette histoire. Et donc là, il est pas tout seul, hein. Il a des scénaristes et des auteurs avec lui. Il y a Serge Thébault, il y a Laetitia Thévenot, il y a Michel Crémade aussi qui ont participé à ce film. Alors c'est d'une facture originale. On nous dit que ce film mêle une fiction à l'italienne, des déclarations d'amour authentiques et des points de vue contrastés sur l'amour et le couple. Ce film est un hommage à l'amour, un hommage au cinéma. Nos deux personnages principaux nous embarquent avec eux dans l'intimité des vrais gens. Nous traversons à leur bord les routes de France dans leurs différents vans et camionnettes, transformés par l'occasion en mini-studios de cinéma. Alors c'est quoi leur concept ? C'est filmer des déclarations d'amour et les livrer directement par camionnette à leur destinataire. Et nous découvrons au fur et à mesure que notre duo et leurs propres aventures personnelles s'entremêlent subtilement avec les gens qu'ils filment. Ce mélange de genres propose plusieurs univers au spectateur afin de l'amener lui-même à s'interroger sur l'amour. Et alors, c'est assez extraordinaire quand même, hein. Alors, le concept du film, c'est quoi ? C'est le grand amour. C'est l'amour amoureux, l'amour maternel, l'amour filial, etc. C'est un message subtil entre une fiction, fil conducteur, et des vraies déclarations documentaires. Ça rappelle le film d'Alain Resnais, d'ailleurs, sorti en mai 1980, qui a été repris en 2018, et qui utilise le mélange des genres pour raconter une histoire. Il y avait Roger Pierre, Nicole Garcia, Gérard Depardieu, et il y avait le professeur Henri Laborie qui intervenait pour expliquer le comportement humain, justement. Et c'était assez... c'était mon oncle d'Amérique, hein, le film. Je sais pas, tu connais peut-être, tu l'as peut-être déjà vu, toi, Damien ?
Je crois pas, non, je crois pas.
En DVD, il faut l'avoir en DVD, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça, c'est... Alors, on reconnaît au passage, quand même, dans ce documentaire, mais dites donc, Zinedine Soilem, Pierre Richard, Pierre Santini, Serge Thébault, Thomas Dutronc, Bruno Puzulu, il y a Lionel Abelansky, il y a Stéphane Fraisse, il y a Sophie Barjac, Fermine Richard, Bernard Ménez, Patrick Braoudé, il y a l'âme également, et oui, qui traverse ce documentaire fiction. Et ma foi, c'est quand même pas mal. Moi, je voulais absolument en parler, il dure 1h20, quand même. Un très, très beau documentaire fiction, en fait. Je t'aime, virgule, filme-moi, point d'exclamation. Et voilà, voilà pour ce documentaire.
Voilà pour ce premier documentaire et un deuxième documentaire de David Teboul qui s'appelle Mon amour.
Décidément, on ne quitte pas le mot. Mon amour, documentaire français de 2h52. Oui, c'est David Teboul, tu le dis, réalisateur, scénariste français. Il a 15 ans de carrière et 5 tournages à son actif. Alors, mes chéris, je voulais vous indiquer, si vous aimez Brigitte Bardot, si vous avez été une fan, un fan ou une fan d'elle quand elle tournait, si vous l'aimez, si vous aimez sa, cette personnalité. Alors, vous avez un documentaire extraordinaire qui a été réalisé par David Teboul, dont on parle en ce moment, qui s'appelle « Bardot, la méprise ». Alors, il est sorti en DVD en 2014 et c'est vraiment très chouette si on, si on aime Brigitte Bardot. Ça vaut vraiment la peine. 2014, David Teboul, hein, et ça s'appelle « Bardot, la méprise ». Je voulais absolument le dire parce que je le connais, ce documentaire, et je le trouve assez extraordinaire. Là, c'est mon amour. C'est l'histoire d'un homme qui se rend au bout du bout de la Sibérie. Il a connu l'amour à Paris il y a 10 ans et il l'a perdu. Ce paysage gelé pourra-t-il le lui rendre? Les femmes et les hommes de ces villages de Sibérie pourront-ils le lui rendre? C'est ce qu'il va leur demander. Il va leur demander de raconter ce qu'ils ont vécu de l'amour. Eux qui connaissent le désastre, le froid et l'alcool. Eux qui disent aussi « mon amour ». Alors le réalisateur, en fait, David Teboul, trouvait qu'il y avait un lien entre son deuil, qui le hante, et ce passé perdu. Et ce deuil interminable du peuple russe à l'égard de la Russie soviétique. Voilà le lien qu'il trouvait. Je voulais absolument parler de ce documentaire français. Il faut le trouver. De toute façon, il sortira en DVD, mes petits choux. C'est sûr, pour ceux que ça peut intéresser. 2h52, hein, quand même. Il faut prévoir un peu de temps. Voilà.
Et après, mon amour, on retrouve Laurie Lassalle pour le film qui s'appelle Boum Boum. Alors, est-ce que c'est le bruit du cœur qui bat face à l'être aimé?
Voilà, c'est ça, ça évoque le son du cœur et de la grenade. Et cette onomatopée est à la fois simple et elle est quand même, elle est prenante, quoi. C'est vraiment, boum, boum, Laurie Lassalle, mais oui, réalisatrice, elle est ingénieure du son, elle est monteuse, elle est directrice de la photographie, elle est musicienne, elle est scénariste, c'est une Française, elle sait tout faire. Cette Laurie Lassalle qu'on aime déjà beaucoup, 38 ans, elle a des courts-métrages, elle a des vidéos sur la danse et la musique dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Et alors c'est un documentaire, donc 1h54, hein. Je rencontre Pierrot à l'automne 2018. Quelques semaines après, nous manifestons ensemble au cœur du mouvement des gilets jaunes. La terre tremble et nos cœurs aussi. Nos corps se mêlent à des milliers d'autres qui expriment leur colère dans la rue tous les samedis des mois durant. Alors le film a été réalisé en décembre 2019. Il est né à la fois de l'émergence des gilets jaunes et de la rencontre amoureuse entre la réalisatrice et Pierrot, un coiffeur. Onomatopée, simple, prenante, percutante également, hein. Boum, boum. Je trouvais que ça pouvait quand même être vraiment intéressant. En tout cas, moi, ce documentaire m'intéresse. Si je ne le trouve pas, je chercherai le DVD dans quelques temps. Boum, boum.
Et un dernier film documentaire pour aujourd'hui de Eva Litija, ça s'appelle Loving I. Smith.
Oui, Loving I. Smith. 1h24, c'est un documentaire allemand et suisse parce que Eva Litija est une réalisatrice scénariste suisse. Elle a 49 ans. C'est un regard unique sur la vie de la célèbre romancière américaine Patricia Highsmith. Alors, 1921-1995. Elle est très connue pour ses thrillers psychologiques, à partir desquels d'ailleurs ont été tournés une douzaine de films. À partir de ses livres. Alors, par exemple, je citais celui-là, moi je l'adore, et vous aussi sûrement, mes petits choux, et Damien, tu le connais peut-être quand même, L'Inconnu du Nord Express, qui est un film qui est sorti, il y a eu plusieurs réalisations, mais la meilleure quand même, bon, moi je peux le dire, c'est le film qui est sorti en 1951 d'Alfred Hitchcock. Et c'était le premier roman d'ailleurs de Patricia Highsmith. L'Inconnu du Nord Express. Et puis, il y a aussi, on a tiré des films aussi de sa série Tom Ripley. Il y a eu 5 romans sur Tom Ripley, alors portés à l'écran, donc dans plusieurs films, et plein de romans comme ça, qui sont devenus des films. Alors, Ce documentaire se réfère à ses journaux intimes, en parlant de Patricia Highsmith, hein, et ses carnets de notes, ainsi que sur les réflexions intimes de ses amantes. Hein, elle a aussi il y a des réflexions intimes aussi de ses amis, de sa famille également. Le film se concentre sur la quête d'amour de Patricia Highsmith et son identité troublée. Ce documentaire jette un nouvel éclairage sur sa vie et son écriture. Je trouve que c'est intéressant parce que on connaît en tout cas pas mal de ses titres finalement qui ont été réalisés au cinéma et on ne sait pas grand chose d'elle parce qu'elle était quand même assez mystérieuse. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était une personne qui était très elle était très dépressive. Elle a presque été tout le temps, toute sa vie quasiment. Et elle a écrit des thrillers psychologiques assez formidables, quoi. En tout cas, voilà. Lovin Highsmith.
Voilà pour les films de la semaine proposés par Anne. Merci beaucoup pour ces films.
Ben oui, écoute, il y avait quand même il y a un choix assez subtil. Enfin, je parle pas de moi, hein, je parle des films, hein, qui sont. Il y a certains films assez subtils et puis il y a un grand choix quand même. Il y en a un peu pour tous les goûts. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, hein, de donner plusieurs, voilà, des films qui peuvent plaire à tout le monde et à nos chers auditeurs bien sûr. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Damien. Merci pour ton soutien, tes bandes annonces. Enfin, chaque fois qu'on peut, puisqu'on est obligé. Évidemment, on ne peut faire passer que des bandes annonces en français, puisque c'est la radio, n'est-ce pas? Et qu'on ne peut pas lire les sous-titres, si c'est une bande annonce originale, quoi. Bon. Alors, bon, il y en a parfois beaucoup et puis parfois très peu. En tout cas, merci à toi. Et puis, ben, vous aussi, mes chers auditeurs, merci d'être là pour nous. Merci d'écouter notre radio, Radio Entre Deux Mers, 98.4 FM. Ben, vous avez aussi les podcasts, hein, ce que vous dit Damien à chaque fois d'ailleurs, n'est-ce pas Damien?
Oui, tout à fait, sur le www.r2m.com.
Voilà, merci. C'était ce que j'attendais de toi. Et puis, bah écoutez, passez une bonne semaine en tout cas. Essayez d'être heureux, hein, le plus possible. Profitez de la journée. Carpe diem. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.
Silence.
Yes.